Bonjour à tous. Alors, je profite de cet instant pour vous envoyer mes meilleures salutations, mais également un grand bisou, et aussi de la part de Sonia. Chers frères et sœurs, demeurez dans le Seigneur et vous recevrez les bienfaits que le Seigneur vous accorde chaque jour. Je vous invite maintenant à ouvrir la parole de Dieu dans trois livres différents. Le premier est Jean 15, versets 1 à 10. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruits, mais il taille, il purifie chaque rameau qui porte des fruits, pour qu'il en porte encore plus. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau et il sèche. Les rameaux secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai obéi aux commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. La deuxième lecture que nous allons faire ce matin, c'est dans l'épître de Jean, premier épître de Jean, chapitre 3, versets 18 à 24. Mes enfants, n'aimons pas seulement en paroles, avec de beaux discours. Faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Voilà comment nous saurons que nous appartenons à la vérité. Voilà comment notre cœur pourra se sentir rassuré devant Dieu. En effet, même si notre cœur nous condamne, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il connaît tout. Et si, mes chers amis, notre cœur ne nous condamne pas, nous pouvons regarder à Dieu avec assurance. Nous recevons de lui tout ce que nous demandons, parce que nous obéissons à ses commandements et faisons ce qui lui plaît. Voici ce qu'il nous commande. Ce que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, comme le Christ nous l'a ordonné. Celui qui obéit au commandement de Dieu demeure uni à Dieu et Dieu est présent en lui. Voici comment nous savons que Dieu demeure en nous. C'est grâce à l'Esprit-Saint qu'il nous a donné. Et la troisième lecture que nous allons faire lire, c'est dans Matthieu 7, versets 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leur conduite. On ne cueille pas de raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des chardons. Un bon arbre produit de bons fruits et un arbre malade de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé, puis jeté au feu. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leur conduite. Ainsi se termine la lecture de la parole de Dieu. Ces quelques versets que nous venons de lire ce matin font partie du dernier entretien que Jésus a eu avec ses disciples avant sa mort. Le but de Jésus est de préparer ses disciples aux événements qui vont suivre, depuis son arrestation jusqu'à sa crucifixion. Et surtout aussi de former pour qu'après sa mort, les disciples puissent poursuivre son œuvre, avec pour seul objectif final la gloire de Dieu. Or, comment Dieu est-il glorifié? Jésus le déclare ici au verset 8. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup du fruit et que vous soyez mes disciples. On constate que les deux vont ensemble. Il y a du fruit parce qu'ils sont disciples du Christ. Jésus le déclarait déjà en ce qui concerne le statut des vrais prophètes dans Matthieu 7:20 que nous avons lu. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Mais qu'entend Jésus par fruit? Le fruit. On remarque tout d'abord que le mot est au singulier, en tout cas dans ce chapitre 15 de Jean, contrairement à Matthieu 7, où il est question des fruits des vrais prophètes. Ah, ici, apparemment, un seul fruit est prévu. Lequel? Ben, le texte ne le dit pas, mais on peut tenter de le découvrir. Cela nous fait penser, en tout cas, à l'Épître aux Galates, Galates 5, verset 22, où l'apôtre Paul présente, sous l'appellation du fruit de l'Esprit, toute une série de vertus, de qualités, de dons. Le fruit, c'est ce qui vient naturellement. Jésus ne parle pas d'actes, ni d'œuvres, ou ni de réalisations, ou mettre en route tout un chantier, car cela impliquerait une volonté, votre volonté, ma volonté. Cela impliquerait des efforts, une entreprise. Mais non, Jésus nous parle de fruits naturels. Le fruit devrait être une conséquence naturelle de notre vie. Prenons l'exemple d'un arbre fruitier. Il ne fait pas d'effort, n'est-ce pas, pour porter des fruits. Et s'il pouvait s'exprimer, l'arbre fruitier ne dirait pas « Allez, je suis prêt, maintenant je vais tout donner et je vais produire des fruits. » Non, l'arbre ne décide pas, car c'est dans sa nature de produire des fruits. C'est naturel. De même, le disciple du Christ produit du fruit parce qu'il est chrétien, parce qu'il est né de nouveau, et non parce que c'est un devoir, une obligation, où il se sent obligé de faire quelque chose, ou parce qu'il veut s'imposer. Chers frères et sœurs, le chrétien produit du fruit naturellement, en fonction de la nouvelle nature que le Seigneur a mise en lui. Autrement dit, être disciple et porter du fruit, ce n'est pas une question d'action, mais de nature, quand on est enfant de Dieu. Le disciple ne se contente pas de faire, il est. Le fruit, c'est aussi ce qui donne la vie. Dans sa propre espèce, c'est bien par les fruits que les végétaux, les plantes, les graminées, les arbustes se reproduisent. Ils se propagent et donc ils continuent d'exister. Ils entretiennent aussi la vie dans leur espèce. Plantez quelques sapins et repassez après une dizaine d'années. Et vous verrez que ces quelques sapins plantés se sont multipliés naturellement et ont donné naissance à une jolie forêt. En plus, le fruit donne la vie à toutes celles et à tous ceux qui passent et qui mangent de ce fruit. Le fruit nourrit. Les fruits du verger nous nourrissent. L'herbe et les fleurs des prairies nourrissent beaucoup d'animaux et d'insectes, comme aussi les fruits des arbres des forêts. Et ce qui est formidable, c'est que dans les deux cas, c'est-à-dire la reproduction et la nourriture, le fruit disparaît. Il est détruit. Il est détruit pour redonner la vie. Comme le disait Jésus en parlant de sa mort, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Là encore, le mot fruit est au singulier. Par contre, nos fruits, ceux que nous fabriquons, sont un jour appelés à disparaître. C'est pourquoi ne soyons donc pas plus attachés à nos fruits que nous fabriquons qu'au Seigneur. Nous avons vu que le fruit est donc naturel chez le chrétien et il donne la vie. Il est naturellement non égoïste, car l'égoïste ne donne pas, il prend. Et chez l'homme, parler de nature non égoïste est contradictoire. Car chez l'homme, l'égoïsme est naturel. L'être humain pense d'abord à lui-même. Cela fait partie de son instinct de survie. Il doit être le plus fort, en première position, et cela parfois en abaissant les autres ou en les ignorant. Nos fruits sont souvent naturellement égoïstes. Mais heureusement, dans sa grâce, Jésus nous propose une expérience nouvelle. Pour enlever l'égoïsme naturel, il faut dépasser notre nature première d'homme. Et puisque cela est impossible naturellement, on doit passer par une expérience. Une expérience qui implique un changement total de notre nature. Jésus nous propose de passer de notre nature à un nouvel état. Comment ? Par l'attachement. À être lié, à être soudé à ce qui n'est pas naturel et qui vient d'ailleurs. Le Christ. C'est pourquoi Jésus nous dit « Demeurez en moi ». Que veut dire cette expression « Demeurez en moi »?« Demeurez en Christ ». Mais pour expliquer cette expression, Jésus reste dans le domaine végétal, avec cette image du cep et des sarments de la vigne, ou du tronc et des branches. Vous avez compris, le cep, le tronc, c'est le Christ. Les sarments, les branches, ce sont les disciples. Les sarments reçoivent du cep la sève, c'est-à-dire la vie, l'énergie. Qu'est-ce que c'est donc cette vie, cette énergie? Dans la nature végétale, ce transfert de vie est physique. L'énergie passe du tronc aux branches par la sève. On se doute bien que, même s'il utilise une image agricole, Jésus parle ici spirituellement. D'ailleurs, le chrétien n'est pas physiquement attaché au Christ comme la branche est attachée au tronc. Quel est donc ce transfert de vie de Jésus au chrétien? Que signifie demeurer en Christ? Dans un premier temps, je dirais que demeurer en Christ, c'est faire la différence entre la vie et l'existence. J'explique. Exister. Exister, c'est poursuivre notre instinct, nos envies, nos habitudes de notre première nature. Un animal existe. Il est lié par sa nature et par ses instincts. Il agit par habitude, sans se poser de questions, sans même l'avoir choisi. Son but est la survie et la supériorité de son espèce. Et il est programmé pour ça. Malheureusement, il y a des êtres humains qui vivent, ou plutôt qui existent, et qui agissent de cette manière. Dans sa première lettre aux Corinthiens 2, verset 14, l'apôtre Paul utilise pour qualifier ces personnes l'expression « homme naturel ». À l'inverse, vivre implique la possibilité de choisir et d'être personnellement responsable. Vivre implique une nouvelle façon de voir la vie et de réfléchir. Et la connaissance du Christ et de l'Évangile nous apporte cette nouvelle orientation, cette nouvelle direction, cette nouvelle vision des choses. Vivre, c'est trouver la raison profonde, c'est trouver les valeurs qui font qu'un chrétien vit comme un disciple du Christ, comme ayant Dieu dans son cœur, et non par habitude ou par instinct. Demeurer en Christ, c'est recevoir une nouvelle culture. Et recevoir une nouvelle culture, cela implique que vous aurez une nouvelle compréhension des choses, un nouveau discernement, une nouvelle conception, une nouvelle vision. Vous aurez une culture si profonde qu'elle deviendra une seconde nature. Quel changement! Autrefois, notre premier réflexe était notre défense, notre survie, sauvegarder notre pouvoir, notre puissance et notre autorité. Maintenant, le disciple pense d'abord au maître et à son prochain. Quel changement! On pense d'abord à Dieu et à son prochain, pas par obligation, comme autrefois, mais c'est sans y penser, parce que notre nature a été changée et que naturellement, je dirais presque par réflexe, on s'oublie soi-même pour penser aux autres. C'est une purification. C'est le mot qu'emploie Jésus au verset 2. Tout sarment qui porte du fruit, le Père le purifie pour qu'il porte encore plus de fruits. Jésus parle de purification dans le sens de tailler, d'élaguer la vigne. En effet, la nouvelle culture que le Christ apporte nous conduit à laisser tomber notre instinct égoïste. C'est en ce sens qu'il est taillé, élagué et purifié. Et cette œuvre, c'est l'œuvre du Père, dit Jésus. Car si nous voulons nous élaguer nous-mêmes, couper les mauvaises branches ou celles qui ne servent à rien, je suis persuadé que nous risquons fort de ne pas tout enlever. tout ce qu'il faut. Ces branches qui nous accrochent au péché et au monde qui nous entoure. Demeurer en Christ, c'est être attaché au Christ. C'est adhérer au Christ. C'est être soudé à lui. Mais comment ? Intellectuellement ? Oui, mais pas seulement. Au verset 4, Jésus dit « Demeurez en moi comme moi en vous. » Comment Jésus demeure-t-il en nous ? Et nous allons le voir de deux façons. La première, c'est par son esprit. Au chapitre suivant, au Jean 16, 13, 14, Jésus dit aux disciples « Quand l'esprit de vérité viendra, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est en moi pour vous l'annoncer. » C'est donc par l'Esprit Saint que Jésus demeure en nous. Jean l'a écrit dans 1 Jean 3, 24. Nous l'avons lu ce texte. Nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. D'autre part, Jésus demeure en nous aussi par son amour. En Jean 15, verset 9, que nous avons également lu, Jésus déclare aux disciples « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Ainsi, comme Jésus le fait pour nous, demeurer en lui consiste à recevoir son esprit et son amour et à rester dans cet esprit et dans cet amour. Comment ? En l'aimant comme il nous aime et en vivant le commandement d'amour du Christ. Vous savez, si on n'aime pas une personne, ben on ne reste pas attaché à cette personne. Tout au plus, on va vivre avec lui. De même, si on est à côté du cep, on est à côté de Jésus. Il n'y a pas de greffe, et la greffe est même impossible. On est à côté. Alors, nous ne sommes pas en lui. Les questions que nous pouvons nous poser ce matin sont celles-ci. Aimons-nous Jésus ? Sommes-nous greffés à Jésus ? Je ne veux pas faire de sentiments ce matin en disant cela. Je n'attends pas une réponse qui dépend de votre émotion, mais bien une réponse réfléchie, une réponse raisonnée, une réponse mûrie, qui peut nous amener à nous remettre parfois en question sur la réelle nature de notre relation avec Jésus. Et le questionnement continue. Dans notre vie de tous les jours, nous, ses disciples, qu'en faisons-nous de Jésus ? Jésus est-il vraiment le centre de notre vie ? Est-il vraiment déterminant ? Est-il notre point d'ancrage ? Est-il notre point de référence ? Les valeurs de Jésus sont-elles nos valeurs ? Ou bien sommes-nous des disciples parce que notre famille est de tradition chrétienne ? Ou avons-nous perdu un peu de cette vie, un peu de cette énergie qui vient de Jésus ? Si nous sommes réellement attaché au Christ, alors ça se voit. Le fruit est présent. Ce fruit est directement lié à la façon dont Jésus demeure en nous. C'est le fruit de l'Esprit et c'est le fruit de l'amour. Ce n'est pas notre amour, c'est son amour. Ce n'est pas notre fruit, mais c'est le sien. Nous ne sommes pas la source de la vie. C'est lui, le cep, c'est Jésus qui nous porte et nous nourrit. Dans Jean 15:1, Jésus dit, « Je suis le vrai cep. » Mais attention, prenons garde, car le monde nous propose d'autres ceps, d'autres philosophies, d'autres façons de voir la vie, d'autres points de référence, etc. Soyons vigilants. Jésus-Christ est le seul vrai cep, celui qui vient de Dieu. Les autres maîtres, Bouddha, Krishna, Mohammed, des gourous de toutes sortes et plein d'autres, ne proposent que certaines améliorations, et encore, dans la vie humaine. Mais elles sont éphémères. Elles ne durent pas le temps, elles ne durent pas dans le temps, et elles conduisent à une mort sans Dieu. Jésus est le seul à annoncer son remplacement. Il est mort sur la croix de Golgotha et ressuscité le troisième jour, afin que nos actes soient des fruits, et non des obligations, des devoirs, ou encore une certaine domination. Remplacement, et non amélioration, afin que l'homme reste libre, pour qu'il vive en conformité avec sa nouvelle nature en Jésus-Christ. Oui, cette nature que Jésus nous offre est nouvelle, et elle n'est pas passagère, elle demeure. C'est pourquoi ce matin, Jésus nous dit et nous rappelle, demeurez en moi. Amen. Sonia va maintenant nous interpréter un chant qu'elle a entendu lors d'un culte télévisé de Suisse. Le titre est « Dans tes mains ». Les paroles sont touchantes et encourageantes à la fois. C'est pourquoi Sonia désire vous le partager. Merci aussi à Michel Cochet d'en avoir fait un très beau diaporama.
Je remets ma vie entière. matin.